totalement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais ce n'est pas le cas de certains des grands personnages pour qui Béatrix Farran a travaillé. Les présidents Thomas Woodrow Wilson et Theodore Roosevelt, ou encore John Rockefeller Jr., ou des grandes universités aussi, Princeton, Harvard, Yale. Et si elle a su séduire les plus grands, Mathieu, c'est pour son sens aigu de la conception paysagère et sa connaissance approfondie de l'horticulture. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à visiter l'un des joyaux méconnus de Washington qu'elle a réalisé, les jardins de Dumbarton Oaks. Sur les hauteurs du quartier huppé de Georgetown, au cœur de la ville, se cache un Éden insoupçonné, une oasis de 4 hectares organisée en chambres de verdure cascadantes en terrasse. Imaginez une profusion de couleurs et de senteurs florales, azalées, chrysanthèmes, magnolias, glycines, vignes grimpantes, des allées serpentines au hasard desquelles se découvrent des jets d'eau, une fontaine italienne, une prairie de fleurs et même un amphithéâtre romain. Vous avez peut-être en tête les sublimes jardins de la Villa Efruzzi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Eh bien, sachez que selon National Geographic, ceux de Dumbarton Oaks sont encore plus beaux. Le magazine les place en 6e position de leur classement des plus beaux jardins du monde. Et on serait tenté de leur faire confiance, sachant qu'ils décernent la première place au Versailles de Lenôtre, dont on parlait déjà tout à l'heure.
C'est sérieux comme classement.
Les jardins de Dumbarton Oaks sont signés de la main d'une autre grande artiste, Béatrix Farran, donc, architecte paysagiste, ou plutôt devrais-je dire jardinière paysagiste, car c'est ainsi que cette pionnière, qui a joué un rôle important dans l'histoire du paysagisme aux États-Unis, préférait qu'on la décrive. L'histoire de cette ascension commence dans la haute société new-yorkaise. La petite Béatrix naît le 19 juin 1872. Elle ne s'appelle pas encore Farran, mais Jones. Elle gardera d'ailleurs son nom de jeune fille jusqu'à son mariage à l'âge de 41 ans. Ses parents sont tous les deux issus de familles très riches. S'il n'y a pas grand-chose à dire sur son père, qui disparaîtra de sa vie après son divorce quand Béatrix aura 10 ans, sa mère, en revanche, Mary Cadwallader Rowle, est une figure de proue parmi le petit cercle des élites de la ville. Les salons d'artistes qu'elle organise chez elle sont très réputés. On y croise les plus grands auteurs et artistes du moment, comme Augustus St. Gaudens, l'un des pères de la sculpture américaine moderne, le romancier et historien Henry Adams ou encore Edith Wharton, la tante de Béatrix, une romancière célèbre qui fut la première femme à obtenir le prix Pulitzer du roman. Outre cet amour des arts, Béatrix hérite aussi d'une autre passion familiale, le jardinage. Elle aura coutume de dire plus tard qu'elle était le produit de 5 générations d'amoureux du jardin. Ce penchant, sa mère et elle s'y adonnent dans leur propriété secondaire de Reef Point où elles passent tous leurs étés. Ce domaine isolé situé sur l'île des Monts Déserts dans l'état du Maine joue un rôle essentiel dans la vie de Béatrix. C'est là, dans ce jardin soumis au vent de l'Atlantique, que naît sa passion du jardinage. Là aussi que prend vie son amour des plantes indigènes, l'une de ses marques de fabrique. Là encore, qu'elle fait ses premières armes de paysagiste en assumant dès l'adolescence la gestion des parterres. Car très vite, la jeune Béatrix n'a plus qu'une idée en tête, devenir paysagiste. Mais comment ? Il n'existe à cette époque aucune école spécifiquement dédiée. Alors Béatrix se forme à sa manière, en autodidacte et sur le tas. Elle a également la chance, en 1893, à l'âge de 21 ans, de faire la rencontre d'un certain Charles Sprague Sargent, un botaniste et professeur d'horticulture à Harvard, auprès de qui elle suit une sorte d'apprentissage informel. Je dis la chance, car il semble qu'il ait été l'un des rares à cette époque à croire en elle. Oui, car un autre obstacle de taille se dresse entre elle et une carrière de paysagiste, un plafond de verre. Le monde du paysagisme est alors exclusivement masculin. Pour preuve, en octobre 1893, à l'occasion de l'exposition universelle, Béatrix fait la rencontre d'un célèbre paysagiste de l'époque, Frederick Law Olmsted. Il n'aura que du dédain pour elle, la faisant passer pour une dilettante auprès de ses pairs. Grossière erreur. À peine 6 ans plus tard, Béatrix Jones, c'est ainsi qu'elle s'appelle à l'époque, sera devenue incontournable. Mais pour l'heure, Béatrix part un temps faire le tour de l'Europe. Puis à son retour, 2 ans plus tard, elle lance son entreprise. Elle a 23 ans. Et très vite, sa carrière décolle. Les clients qu'elle parvient à glaner parmi des amis de sa famille font marcher le bouche à oreille. Son style élégant, riche de détails architecturaux et privilégiant les plantes indigènes, lui attire de nombreuses propositions. En 1899, sa réputation a fait le tour de l'Amérique. Tant et si bien que Béatrix est choisie pour devenir l'une des fondatrices de la Société américaine des architectes paysagistes. Elle est la seule femme. C'est la consécration. Puis les projets s'enchaînent, surtout dans le domaine privé, car les grands projets publics restent réservés aux hommes. L'architecte paysagiste Diane McGeer, cité dans le New York Times en 2003, aura ces mots à son sujet. Béatrix Farran était une conceptrice exceptionnelle. Elle avait un sens aigu des proportions et une grande force dans ses dessins. Mais parce que c'était une femme, elle n'a pas eu les mêmes opportunités que les hommes. Ils concevaient des parcs publics, elle devait se cantonner au domaine privé. Sa carrière n'en sera pas moins prolifique. 50 ans et plus de 200 jardins. Parmi ses plus fameuses réalisations, citons la Maison Blanche, où elle réalise des jardins pour la Première Dame durant le mandat de Woodrow Wilson. Pour un autre président des États-Unis, Theodore Roosevelt, elle conçoit quelque chose de moins réjouissant, sa pierre tombale. Plusieurs campus universitaires furent également l'objet de ses travaux, une douzaine au total, dont Yale, Harvard, Princeton ou encore l'Université de Chicago. Là encore, il n'en reste quasiment rien. De son œuvre, il ne subsiste véritablement que deux grands jardins, encore dans leur quasi-totalité intacte. Le jardin Abby Aldrich Rockefeller, anciennement la résidence d'été de la famille Rockefeller, considéré comme l'un des joyaux paysagistes des États-Unis, et son chef-d'œuvre que je vous ai décrit, la fameuse propriété de Dumbarton Oaks à Washington, considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux jardins du monde.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Et pour essayer de mieux connaître Béatrix Farran, nous sommes avec l'architecte paysagiste Laure Cognam. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour Laure Cognam, vous avez réalisé de nombreux aménagements partout en France. On vous doit notamment la réhabilitation du pont du Gard, la restauration du parc d'Ancy-le-Franc ou l'aménagement du quai de la Râpée à Paris. Dans votre livre Le champ d'en face, vous êtes l'une des rares à mentionner le travail de Béatrix Farran. Pourquoi la connaît-on si peu en France ?
Déjà, on ne connaît pas beaucoup d'architectes paysagistes de la fin du 19e et du 20e en France.
Elle, Béatrix Farran, bon, Stéphane l'a raconté, c'était vraiment une pionnière puisqu'elle a été la première femme à s'illustrer dans le paysagisme aux États-Unis. Est-ce que c'est juste un fait historique ou c'est une source d'inspiration pour vous encore aujourd'hui, ces travaux ?
C'est plus qu'un fait historique, oui, elle m'a beaucoup inspirée, mais c'est surtout la femme et la professionnelle qui m'ont inspirée. Plus que la créatrice, sauf pour son jardin dans le Maine, à Sillarbourg. Mais c'est une femme qui avait une passion pour son métier, elle avait un regard artistique, elle avait une ténacité extraordinaire. Quand vous pensez que Dumbarton Oaks, par exemple, je crois que c'est plus de 25 ans de travail continu, et pour la résidence des Rockefeller, c'est entre 26 et 50, pareil, vous voyez.
Comment pourrait-on, Laure Cognam, définir le style de Béatrix Farran ? Où est-ce qu'elle a puisé l'inspiration pour réaliser ses jardins ?
Alors déjà avec sa formation avec le botaniste Sargent, qui lui a tout appris. Elle a même habité chez lui pour apprendre. C'était une formation personnelle qu'il lui a donnée. Et puis ensuite, elle est partie en Europe. Elle a fait tout un tour. Elle est arrivée par le sud de l'Espagne. Elle a vu les jardins espagnols, les jardins italiens, les jardins français. Et puis elle est allée en Angleterre. Et en Angleterre, elle a rencontré Gertrude Jekyll, ainsi que William Robinson. Gertrude Jekyll, c'est une femme qui a révolutionné l'art du jardin en Angleterre, notamment en travaillant les associations de couleurs de plantes. Donc elle-même a puisé chez cette innovatrice beaucoup d'idées, elle était très en accord avec ce monde. Et quand vous avez fait un grand tour du monde des jardins, enfin en tout cas de l'Europe des jardins, et que vous revenez dans votre propre pays, il y a une façon d'assimiler les choses qui fait qu'aux États-Unis, cette femme, une des premières donc, à assimiler cette originalité, et ça se ressent dans ses jardins.
Stéphane le racontait, Béatrix a travaillé avec des noms célèbres aux États-Unis comme la famille Rockefeller. Mm-hmm. À quoi ressemble le jardin Abby Aldrich Rockefeller qui existe encore aujourd'hui ?
Alors, déjà, il faut imaginer qu'elle va implanter un jardin dans le Maine. Donc, c'est un paysage qui ressemble un peu à l'Écosse. Et l'histoire drôle, c'est qu'il revenait d'Asie et il voulait un jardin qui soit asiatique. Et elle n'avait jamais été en Asie. Donc ça donne quelque chose d'extrêmement singulier. Alors, je peux vous le faire parcourir si vous voulez. Vous arrivez dans un jardin qui est donc asiatique, c'est-à-dire c'est un grand chemin, une allée de sculptures d'ancêtres. C'est à l'ombre, sous les pins, il y a une ambiance comme ça extrêmement mystérieuse. Et puis, il y a un petit chemin sur le côté qui a l'air de rien du tout. On l'emprunte parce que voilà, c'est amusant de l'emprunter. Et là-dessus, on tombe sur un mur rose dans lequel il y a un trou comme font les Chinois, c'est-à-dire un grand rond. On passe ce rond, c'est une porte, hein, on chevauche le rond. Oui. Et on rentre dans un autre jardin complètement différent parce que lui, il est tout à fait sous la lumière. Et là, elle a travaillé tout un parterre avec ses jeux de couleurs. Et c'est un grand rectangle où il y a d'un côté les couleurs chaudes, les bleus, les violets, et de l'autre côté, des couleurs froides. Mmh. Non, je me suis inversée, hein, des couleurs, les bleus, non, puis les couleurs rouges, vous avez compris.
Vous décrivez de telle sorte qu'on n'a aucune envie, c'est d'y aller. J'avais une question un peu personnelle, Lorcognam, on voit que Béatrix Farran a dû lutter terriblement parce que à elle les jardins privés et les hommes se réservaient les jardins publics. Est-ce que peut-être vous vous êtes senti une certaine connivence avec cette femme qui a dû lutter pour imposer ses vues, pour devenir une paysagiste? Est-ce que vous avez connu le plafond de verre, vous aussi, ou
Oui, bien sûr. Certainement moins qu'elle, parce que voilà, elle est née en 1872, donc
il y a un siècle qui vous sépare.
Il y a un siècle qui nous sépare. Mais évidemment que c'est difficile, parce que déjà le métier n'est pas connu, et en plus, très peu de femmes travaillaient. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que les Américaines ont gagné, les suffragettes ont gagné. Le vote en 1920, et donc ça a été vraiment un moment important parce que les femmes ont commencé un peu à travailler à ce moment-là. Et le jardin, tout ça, tout autour, c'était quand même une ouverture pour les femmes. Ce qui est étonnant avec Béatrice, c'est qu'elle l'a menée vraiment comme une grande professionnelle. C'est pour ça qu'elle est une pionnière. Elle avait plusieurs agences. Elle a commencé chez sa mère, au-dessus de leur appartement. Puis après, elle a monté une agence, une autre plus importante à New York. Enfin, elle a mené ça comme nous, on le mènerait maintenant. Donc évidemment, elle a été confrontée. Moi, quand j'ai fait mes premiers aménagements, par exemple aussi du Pont du Gard, j'étais la seule femme. Oui. Donc oui, nous avons, mais les choses ont quand même évolué. J'ai connu ça, mais quand on est aussi un peu
tenace,
singulier, on se fait remarquer voilà. aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. Je veux dire, oui, c'est dur, mais aussi d'un autre côté,
mais
si on prend les choses
bien. Mais la ténacité paye, bien sûr.
Et
vous le disiez à propos de Béatrix Farran. Ouais. En tout cas, merci Lorcognam de nous avoir emmenés dans les plus beaux jardins d'Amérique. Je rappelle que votre livre « Le champ d'en face », dans lequel vous revenez sur votre vocation d'architecte paysagiste, est paru aux éditions Gourcuff-Gradenigo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.